consentement,
caresse,
violence,
amour,
vulve,
désir,
sein, règle,
ménopause,
homosexualité,
queer,
cul,
emprise,
viol,
attentionnement,
transidentité,
masturbation,
endométriose,
homosexualité,
harcèlement,
pénétration,
tabou. Pas de tabou entre nous. Nos voix sont libres, nos corps aussi. Parlons plaisir, lutte, amour et féminisme. Tous les premiers mardis du mois de 20h à 21h sur Radio Écho des Choucas.
Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureuse d'être là. C'est notre 7e émission à la radio. On est heureuse de pouvoir parler avec vous de sexualité, de plaisir, des violences aussi parce qu'elles existent, de contraception. Tous les sujets sont les bienvenus. Des questions et des témoignages, comme le dit le titre de l'émission, pas de tabou entre nous. Cette émission est la vôtre, on attend vos appels. C'est une antenne libre, appelez-nous au standard au 07 89 05 55 97.
Alors nous, on est militantes au planning familial de la Vienne. C'est une association féministe et d'éducation populaire qui milite pour le droit à la contraception, à l'avortement, lutte contre les violences, milite pour l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est une association nationale. Dans la Vienne, on intervient en milieu scolaire, dans les structures médico-sociales, auprès des professionnels qui accueillent du public en tant qu'animateur, dans les milieux socio-culturels, dans l'éducation. Et nous accueillons tous les lundis, de 18h à 20h, sans rendez-vous, toutes les personnes qui souhaitent parler de sexualité, avortement, contraception, violence, aux 20 rues du Fief d'Eos à Poitiers. Alors moi, c'est Aurélie.
Moi, c'est Françoise.
Moi, c'est Morgane.
Et moi, c'est Sonia.
Donc, n'hésitez pas une fois encore à nous appeler au 07 89 05 55 99 pour nous faire part de vos témoignages suite à la thématique d'aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'avortement. Nous allons vous expliquer les étapes, les démarches d'une femme qui se trouve dans la situation où elle doit avorter. Rappelons que l'avortement est un événement fréquent dans la vie des femmes. Depuis 1975, la loi autorise l'IVG, c'est la loi Veil, et depuis 2024, l'IVG, en tant que liberté fondamentale, est inscrite au sein de la Constitution française. Je rappelle que IVG veut dire interruption volontaire de grossesse. Malgré tout, les femmes sont encore nombreuses à rencontrer des obstacles, des difficultés dans l'accès à l'avortement. Quelquefois, l'accueil est culpabilisant. Les centres IVG sont fermés ou injoignables. Il y a de la désinformation. La méthode est imposée. Les consultations sont difficilement compatibles avec une vie familiale, professionnelle, scolaire, etc.
Alors, il est aussi, c'est important de rappeler, hein, c'est que la loi, effectivement, elle autorise l'avortement depuis 1975, mais que globalement, en France, il y a de moins en moins de centres d'IVG. Et que les femmes doivent faire de plus en plus des trajets longs pour avoir accès à l'avortement.
Il n'y a pas que des centres, il y a des médecins qui arrêtent de faire des IVG.
Voilà, c'est que globalement, ça devient quand même difficile sur le territoire français. Et en dehors des grandes villes, l'accès à l'avortement est difficile. Alors en plus, si on est mineur, ça complique encore plus la chose parce qu'il faut se déplacer. Il y a de moins en moins de transports publics et donc Le chemin peut être semé d'obstacles. Il y a quand même des... Nous, on le voit, on accueille au planning sur nos permanences du lundi de 18h à 20h. Beaucoup encore de crainte de parler librement d'avortement. On a toujours peur d'être jugé, d'être remarqué. Ou en tout cas, c'est
un sujet qui... Oui, ça reste un sujet tabou.
Exactement.
On peut le dire.
Oui, et puis comme on a dit déjà, le manque de structure crée encore plus de difficultés. Et puis il y a la culpabilisation.
Oui.
Ça existe toujours. Hein. On a toujours entendu parler des femmes de culpabilité, culpabilité d'avorter, culpabilité de faire ce choix. Et, et ça reste encore parmi les freins les plus importants.
On sait très bien que les femmes qui avortent, elles vont pas, en arrivant au bureau le matin, dire à leurs collègues « Ah, vous savez pas, aujourd'hui ou demain j'avorte ». Non, on ne le dit pas, on se tait.
Et puis même, c'est l'histoire de culpabilité et de tabou aussi, c'est vraiment toute génération confondue. Parce que même nous, lors des témoignages, on le voit, ça va autant sur les jeunes aussi que des personnes qui vont avoir la trentaine, quarantaine, où on sent des fois que c'est encore compliqué de parler de ces sujets-là, quoi.
Moi, je vais ajouter une note positive. C'est que je suis au planning depuis très longtemps et je réponds au téléphone, au 06. Et ces dernières années, je vois des femmes moins culpabilisées qu'avant. Donc, il y a une évolution. Mais comme tu le dis, ça reste quand même...
Ça reste difficile, on voit bien l'accueil qu'on fait, c'est on n'en parle pas librement et dans un cercle élargi. Ça reste dans un cercle plutôt restreint. Et comme tu disais, voilà, à la cantine, on ne dit pas « j'ai avorté » ou « je vais avorter ».
Non.
Bon, c'est pour ça qu'on a besoin aussi, vous, de vos témoignages, des témoignages de l'avortement que vous avez fait ou alors des questions que vous vous posez sur comment ça se passe un avortement ici à Poitiers ou là où vous êtes de manière générale. Donc appelez-nous au 07 89 05 55 99. 07 89 05 55 99.
Bon, alors, un matin, je me lève. Je réalise que j'ai pas eu mes règles, ça fait au moins 15 jours, je devrais les avoir. Oh là là !
Parce qu'il y a un appel.
Ah, on a un appel.
Ah bon, eh bien on va le prendre.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous nous entendez ? Ah, on a un petit souci technique.
Non, c'est bon, voilà, vous êtes à l'antenne.
Bonjour. Bon, on va essayer de reprendre la personne qui nous appelle. Françoise, est-ce qu'on continue ? Donc,
Attends.
Allô, vous êtes à l'antenne, vous pouvez parler, pardon.
Alors, Françoise, donc tu es enceinte.
Alors, je continue. Donc, ça fait 15 jours que je n'ai pas eu mes règles alors que je devrais les avoir. Qu'est-ce que je fais ?
Eh bien... Tout d'abord, si le rapport à risque, ou en tout cas qui peut laisser présumer qu'éventuellement il y a une suspicion de grossesse, si ce rapport, donc par rapport au fait qu'on se rend compte qu'on n'a plus ses règles et a eu lieu dans un délai de 72 heures, on peut déjà dans un premier temps prendre la pilule de contraception. Ça peut déjà une première solution.
Alors, je la trouve où cette pilule ?
Eh bien, la pilule
d'urgence ?
Pilule d'urgence, pardon. Cette pilule de contraception d'urgence, pour être complète dans mes intitulés. Donc, on la trouve en pharmacie. Et évidemment, le plus tôt c'est pris, le plus efficace. Mais dans tous les cas, voilà, si on se rend compte que dans un délai de 3 jours après le rapport à potentiellement exposition à la grossesse, on peut la prendre jusqu'à 72 heures.
Mais alors, je vais à la pharmacie, puis je dis, je veux la pilule d'urgence, on va me la donner comme ça ?
Oui, tout à fait, ouais. Oui.
Je ne paye pas ?
Non, il n'y a pas besoin
c'est gratuit de
la payer. Il n'y a même pas besoin d'avoir une carte de sécu ou faire de preuve de, par exemple, si c'est une personne mineure.
Ah oui, alors
il ne
faut pas l'autorisation de mes parents.
Non, absolument pas besoin. Et ensuite, donc, dans le cas où, bon, malheureusement, Françoise, tu te situes, tu as un retard de 15 jours, 3 semaines par rapport à ton délai habituel pour tes règles. Donc déjà dans un premier temps, le mieux c'est d'aller acheter un test de grossesse. Donc on peut trouver soit en pharmacie, soit en grande surface. Et que si par contre tu es une personne mineure, collégienne ou lycéenne, par contre on peut directement se référer à l'infirmière scolaire. Et par contre si c'est une personne qui est étudiante, on peut aller sur le campus à la médecine préventive. Donc ça, c'est la première démarche à faire. Déjà, conforter ou pas la suspicion de grossesse avec un test.
Bon, alors, j'ai acheté mon test. Et ça y est, j'ai fait pipi sur mon test.
Alors pour quand on fait un test de grossesse, le mieux, c'est de le faire le matin.
Alors pourquoi ?
Parce que l'urine, elle est plus concentrée en hormones...
Le matin ?
Le matin, exactement. Alors, d'hormones de grossesse.
Un appel,
oui.
On va faire en sorte que ça marche.
Ça va marcher. Allô, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Vous nous entendez ? Allô ?
Bon.
peut-être que la personne, elle peut te
Il n'y a que toi, qui l'entends.
Ben, tout à l'heure, ça marchait.
Alors, donc voilà, le mieux, c'est de le faire le matin parce que donc, concentration en hormones est plus importante. Et donc, si il y a une barre qui apparaît, c'est que le test est négatif. Si deux barres apparaissent, c'est que le test est positif.
Mais il peut bien y avoir une erreur.
Oui, alors surtout sur les tests positifs, parce qu'il y a rarement de tests positifs.
Non, pas sur les tests positifs, tu dis.
Il n'y a pas d'erreur sur les tests positifs.
C'est sur les tests négatifs qu'il peut y avoir une erreur.
Il peut y avoir défaut négatif, effectivement. D'accord. Mais donc après, si le test est positif, il faudra effectivement, on va voir ensuite, mais confirmer la grossesse avec une prise de sang.
D'accord. Alors, non, on l'a fait, la prise de sang, on la fera après. D'accord. Alors, j'ai pas du tout envie de garder cette grossesse, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, je crois que je prends rendez-vous chez mon médecin généraliste.
Non, François, c'est pas la peine. Sauf dans le cas où ton médecin ou ta médecin généraliste ferait des IVG médicamenteuses.
Si j'ai choisi cette méthode-là.
Exactement. Mais en France, on peut avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines sans règles. Donc, il faut avoir à peu près une idée de la date de grossesse.
Oui.
Et pour ça, pas la peine d'aller faire une échographie chez un médecin en libéral. Il faut prendre rendez-vous dans le centre IVG le plus proche de chez soi. Donc à l'hôpital, en clinique, en cabinet de ville, en centre de santé, à Poitiers par exemple, ou dans le centre de santé sexuelle au CHU. Et là, on fera tous les examens nécessaires, dont la prise de sang dont je te parlais
tout
à l'heure.
Voilà, c'est pour ça que je t'ai arrêtée, parce que je me disais...
Donc, là, on fera tous les examens possibles, prise de sang, échographie, pour qu'on puisse avoir la datation de la grossesse, puisque les délais en France, c'est 14 semaines de grossesse. Voilà, jusqu'à 14 semaines, on peut avorter.
À quel numéro on peut joindre le centre de santé sexuelle à Poitiers?
Eh oui.
Alors, le centre de santé sexuelle à Poitiers, on peut le joindre au 05 49 44 48 31.
Tous les jours, aux heures ouvrables.
Voilà.
Alors, maintenant, on va écouter une chanson d'Anne Sylvestre, que Anne Sylvestre a fait dans les années 73, qui s'appelle « Non, tu n'as pas de nom ». Bien sûr, c'est une chanson sur l'avortement. À l'époque, les radios nationales trouvent la chanson problématique. Alors, elle ne sera quasiment pas diffusée sur les ondes. Mais c'est dans la rue qu'elle trouve un écho, dans les manifs pour le droit à l'avortement. À la même époque, Annie Ernaux, auteure, sort un livre qui s'appelle « L'événement », où elle raconte un avortement qu'elle a dû subir quand elle était jeune, mais un avortement d'avant la loi, c'est-à-dire un avortement douloureux. Alors maintenant, on va écouter « Non, tu n'as pas de nom ».
Ben, on a dû changer de chanson d'Anne Sylvestre, parce qu'on a plusieurs petits problèmes techniques aujourd'hui. Et du coup, ce sera la faute à Ève, mais c'était quand même une jolie histoire, Françoise.
Ciao.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute d'Ève, il a rien fait lui, Adam. Il a pas dit, femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique, au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec trois bonhommes à la fois. Là c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa, pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais, qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah.
Bonsoir et bienvenue de retour sur Pas de tabou entre nous. Donc merci d'écouter notre émission du planning familial de la Vienne, qui est diffusée le premier mardi de chaque mois. Donc aujourd'hui nous parlons avortement. Donc on avait eu quelques petits soucis techniques tout à l'heure, mais n'hésitez surtout pas à nous rappeler pour nous faire part de vos témoignages, de vos questions qui portent sur le sujet de l'avortement. Si vous avez, enfin, voilà, si vous questionnez sur comment ça se passe, si vous souhaitez même nous faire part voilà, de ce que vous avez pu vivre ou entendre parler. Donc vous pouvez nous rappeler au 07 89 05 55 99. Et donc Sonia récupérera les appels et elle nous fera part de la question pour qu'on puisse échanger tout autour de ce qui est abordé. Voilà, n'hésitez pas à nous rappeler encore une fois au 07 89 05 55 99. Donc, pour reprendre, Françoise, tu es enceinte avec un retard de règles de 2 à 3 semaines, on avait dit, et tu souhaites prendre rendez-vous au centre de santé sexuelle de Poitiers.
Ben oui, bien sûr. Alors, j'imagine que je vais avoir un rendez-vous le lendemain, parce que tu comprends que ça, il faut que ça s'arrête, cette histoire.
Oui, c'est vrai qu'on aimerait que ce soit possible, mais même à Poitiers, alors que l'accès à l'IVG est plutôt facile, il faut quand même attendre un petit peu.
Ah oui.
Oui, il y a au moins un délai d'une semaine entre le moment où on appelle et le rendez-vous qu'on obtient au centre de santé sexuelle.
Pourtant, ce n'est pas facile d'attendre.
Non. Et d'ailleurs, c'est tous les témoignages qu'on peut avoir aux permanences ou au téléphone. Les femmes, lorsqu'elles ont pris la décision d'avorter, c'est difficile d'attendre. On veut voilà, que ça se termine, passer à autre chose et puis... Et puis, continuer sa vie et ne pas avoir à attendre cette prise en charge qui nous paraît une éternité quand on a pris cette décision. Alors, même si à Poitiers, l'accès à l'IVG est plutôt facile, il y a quand même des périodes, notamment les périodes de vacances, où c'est plus compliqué parce que...
Les médecins sont en vacances.
Voilà, les médecins sont en vacances. Et puis... On l'a souligné tout à l'heure, mais on le rappelle, quand on est en milieu rural, c'est plus compliqué. On va le voir, hein, y a plusieurs méthodes pour avorter. Et l'avortement, ce qu'on appelle instrumental, on expliquera bien tout à l'heure en quoi ça consiste, il se pratique qu'à Poitiers et à Châtellerault dans la Vienne. Donc ça complique encore plus quand on habite Loudun, Montmorillon... ou si vrai, ou...
C'est surtout les mineurs éloignés, finalement, qui ont des problèmes. Parce qu'il faut qu'elles se déplacent, et si elles ne veulent pas le dire à leurs parents...
Oui, alors, il n'y a pas que les mineurs qui ont des problèmes, mais ça complexifie, en tout cas, la prise en charge, la prise de rendez-vous, parce que si on ne veut pas que ses parents le sachent, ça veut dire qu'il faut faire ça en journée, et avoir les déplacements, et avoir quelqu'un qui peut nous véhiculer.
Oui.
Donc, c'est vrai que moins de services publics, ça veut dire donc aussi moins d'accès à l'IVG et moins de transports qui nous permettent de pouvoir circuler facilement. Et plus on est éloigné et plus on est précaire. Donc c'est vrai que c'est ça compliqué. Il faut quand même rappeler, parce que on peut se poser la question, notamment quand on est mineur, c'est que l'IVG est anonyme et gratuit. Voilà, on n'a pas besoin de l'accord de ses parents lorsque on avorte et qu'on est mineur. On doit être accompagné d'une personne majeure de son choix, mais comme tu le rappelles souvent, Françoise, cette personne majeure n'est pas responsable de la personne mineure qu'elle accompagne. Elle est juste là en tant que soutien,
voilà.
Présente pour soutenir
c'est tout.
Sa copine, sa cousine, sa tante, sa sœur, oui. Voilà, oui. La personne pour qui elle est présente. C'est vraiment important de dire là que la personne majeure, faut juste être accompagné d'une personne majeure, parce que quand on a préparé l'émission de radio, on est allé sur le site Amélie.
C'était pas net.
Et c'était la tournure des phrases était faite d'une manière où on avait l'impression que les parents devaient donner leur accord. Et après, il fallait relire les choses pour comprendre que non, c'était bien ce qui était dit, c'est qu'on est accompagné par un ou une majeure, mais en aucun cas, les parents doivent donner leur accord.
C'est la loi qui le dit.
C'est la loi qui le dit, exactement.
Et puis c'est vrai que, pour avoir eu un appel à ce sujet-là la semaine dernière lors d'une permanence, c'est vrai que pour les mineurs, c'est quand même toujours... Enfin, il y en a en tout cas, la personne que j'avais au téléphone était quand même... Enfin, se poser quand même pas mal de questions, suspicion de grossesse, test négatif. Bon, même on lui a expliqué le fait qu'on pouvait avoir des faux négatifs, effectivement, lors d'un test. Mais qu'il y a aussi, voilà, vraiment cette crainte aussi de ne pas le dire aux parents parce que peur de se faire fâcher, tout simplement, de se faire juger et de, clairement, voilà, de passer pour une personne qui n'est pas forcément consciente des risques, etc. Et c'est vrai que les gens, enfin en tout cas même les jeunes, en l'occurrence cette mineure-là, n'avaient pas forcément accès à l'info qu'elle pouvait avorter sans forcément en parler à ses parents, que c'est une possibilité, que ça existe et que les prises en charge, on n'est pas obligé de parler à chaque fois à un médecin généraliste.
Alors oui, Sonia, on avait un appel.
Oui, on a eu un appel du coup d'une dame qui se questionne... sur l'avortement, qui se dit que même si c'est un droit, etc., que ça reste quelque chose qui est grave à vivre. Voilà, donc c'est quelqu'un qui dit qu'elle n'a jamais avorté. Voilà.
C'est plutôt quelqu'un qui se posait des questions sur les conséquences psychologiques que l'on peut avoir parce que ce n'est pas un acte anodin, que c'est... Peut-être une blessure dans la vie d'une femme.
Ou que par rapport à des croyances aussi.
Physique aussi, parfois.
Oui, sur les questions de fertilité, par exemple. Est-ce que avorter rend infertile ou est-ce que ça aura des effets sur la fertilité? Donc, bon, sur la question de la fertilité, non, avorter ne rend pas infertile.
La preuve en est que certaines femmes avortent plusieurs fois.
Oui, et ont des grossesses par la suite.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui circule assez facilement de dire c'est grave d'avorter, ça crée des dommages psychologiques pour la personne qui avorte. Nous ce qu'on constate c'est que bon on l'a dit hein, quand on prend la décision d'avorter, on a envie que ça se fasse quoi.
C'est pas... pour la plupart du temps c'est une solution à un problème. Alors effectivement on peut aussi avoir des idées sur enfin des principes là-dessus. Mais ça, effectivement, nous, on ne peut pas changer les choses. Si on a des principes, si on est croyant, par exemple, et ça, on ne peut pas le discuter, nous. C'est chacun qui fait avec ses idées hein, et ses croyances. Mais en dehors de ça, la plupart des avortements sont plutôt des soulagements pour les femmes qui les pratiquent. Et alors, quelquefois, ça laisse des petites traces où ça fait des moments des petits moments désagréables ou des petits moments où il y a de la peine à cause de ça. Mais c'est surtout parce que le moment qu'elles vivent est associé à l'IVG, est un moment douloureux. Un deuil, qu'elles perdent le géniteur, ou alors son mec l'a larguée, elle se retrouve toute seule, elle a beaucoup de chagrin. Donc souvent, on associe l'IVG à ce moment difficile.
Oui, tu veux dire un contexte de vie qui c'est pas l'acte d'avorter qui est problématique.
Donc, quand on va avorter, on est mal, bien sûr, puisque le futur enfant, on l'aurait bien voulu.
Alors bon, ça dépend. Oui, voilà, les gens pensent ça, mais ce n'est pas du tout nous ce qu'on pense.
Non.
Déjà, on nomme pas... C'est une grossesse, c'est un embryon, ça n'a
Bien
rien
sûr.
À voir avec un enfant. Et Mais les témoignages qu'on a, c'est que c'est quand même, comme tu disais, un soulagement. Et c'est une solution à un problème que l'on rencontre. C'est plutôt effectivement autour des croyances, des principes qu'on a, que ça vient...
Ça, ça se discute pas, ça.
Voilà, et on a eu des femmes qui ont pu venir nous voir à la permanence où... Elles avaient pris la décision d'avorter alors que c'était en contradiction totale avec leurs croyances, notamment religieuses. Et le mal-être, il venait plutôt de ça. C'est-à-dire, finalement, elles étaient contre l'avortement, mais au moment où elles...
Elles en avaient besoin.
Elles en avaient besoin de prendre cette décision, elles en avaient besoin.
Oui.
Mais ce qui était douloureux, c'est plutôt d'aller contre... leurs propres valeurs.
Donc elles étaient tiraillées par les principes de la famille et puis par le besoin d'avorter.
Et c'est vrai que aussi, souvent le recours à l'IVG, c'est quand même une décision qui a été réfléchie en amont. On a rarement des personnes... Parce que c'est vrai qu'on a pu entendre parfois parler, par le passé, pardon, des médias qui parlent des fois d'IVG de confort. Et
non,
c'est rarement de confort dans le sens où voilà, il y a quand même une réflexion qui a été motivée autour et que rares sont les personnes qu'on est
Et puis on voit bien que le parcours, même s'il a été simplifié, même s'il a été facilité et que il est plus facile d'avorter aujourd'hui qu'il y a même 10 ou 15 ans ou bien évidemment avant 75, on voit bien que c'est semé d'embûches et que c'est quand même
tout fait pour que la femme se dise oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pas fait.
Oui, et puis c'est difficile de prendre la décision, ça n'est pas difficile, mais c'est
le faire.
C'est le faire, c'est-à-dire l'avoir techniquement, enfin dans le pratique, dans les questions pratiques. Encore une fois, nous à Poitiers, on est plutôt épargnés, mais je sais que dans les Hauts-de-France, c'est compliqué. Les femmes doivent faire parfois 200 km, sachant que c'est pas au premier rendez-vous qu'on va avorter. Il va y avoir au moins deux rendez-vous pour pouvoir avoir accès aux praticiens et avoir accès à l'avortement. Donc l'IVG de confort, c'est bien des gens qui n'ont jamais avorté, qui pensent ça ou qui n'ont jamais été enceintes ou qui pourront jamais l'être. C'est des hommes.
Ouais, alors moi, je voudrais bien raconter, parce que ça m'a toujours marqué, parce que ça fait longtemps que je suis au planning, donc j'ai vu beaucoup de femmes venir aux permanences pour dire qu'elles étaient enceintes et qu'elles voulaient interrompre leur grossesse. Et ça se passe de moins en moins, donc ça me réjouit. Mais les femmes arrivent et elles sont courbées, elles ont la tête baissée, elles arrivent coupables. Et ça, c'est très désagréable pour nous de voir arriver les femmes qui se sentent coupables. Et elles s'assoient sur le fauteuil en face de nous et elles ont une attitude très... Oui, elles se disent...
Renfermées,
oui. Et alors, on leur dit... Bon, quelquefois, elles ne sont pas seules, puisqu'on fait l'accueil collectif. Il y a d'autres femmes qui sont là pour la même raison. On discute avec les autres, on discute avec elles. Et puis, on lui dit, mais madame, la loi vous autorise, vous avez le droit d'avorter. Il n'y a aucune raison que vous vous sentiez coupable. Non, non. On essaie de savoir pourquoi elles se sentent coupables. On discute avec elles. Alors, souvent, elles nous disent, ah oui, mais ma mère ou ma belle-mère, ou si, ou là... Il y a toujours quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. C'est-à-dire qui... Non, mais c'est vrai, qui se sent
autorisé à dire,
autorisé à lui dire, ah ben moi, les copines quelquefois, il faut se méfier des copines. Souvent, ben j'ai une copine qui me dit quand même, tu devrais pas avorter. Mais la copine, ça la regarde pas. C'est pas son ventre, c'est le vôtre. Donc, et alors ces femmes, on discute de tout ça pendant un bon moment parce que ça nous fait du chagrin de voir qu'elles sont comme ça. Et finalement, la satisfaction, c'est qu'on les voit repartir la tête droite. On les a un peu libérées. On les a un peu libérés de cette culpabilité. Peut-être pas totalement, mais on a fait un petit peu de bien.
Oui, de savoir que ça existe, des lieux comme le planning familial et qu'il y a des femmes qui portent et supportent toutes celles qui prennent cette décision, je pense que ça rassure aussi et puis que ça encourage, que ça donne de l'élan pour affronter la suite.
Oui.
Bon, alors, pour avancer
dans la démarche,
Françoise,
oui.
Qu'est-ce que tu te poses comme question?
Donc, j'imagine que je vais avoir un rendez-vous demain.
Donc non, on t'a dit alors, que non, ça ne serait pas demain.
Tout à l'heure, tu as dit non.
Oui, oui.
Bon, alors, comment ça va se passer? Comment je vais avorter?
Donc, voilà, parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de l'IVG en grande généralité, et même si... Aurélie déjà a situé, a cité par contre, un peu plus tôt, donc par exemple l'IVG, instrumental, mais qui s'appelle aussi l'IVG chirurgical. Donc on a deux recours possibles. Donc il existe soit l'IVG médicamenteuse, soit l'IVG instrumentale ou chirurgicale, selon la préférence. Et donc la subtilité entre les deux dépend tout simplement en fait de la datation de la grossesse. Et donc, comme on l'avait vu précédemment, la datation de la grossesse, elle se fait par une écho lors du, par exemple, du rendez-vous au centre de santé sexuelle. Au centre de santé sexuelle, donc on va faire tous les rendez-vous, l'écho de datation, la prise de sang aussi pour bien conforter le fait que la grossesse est bel et bien en cours. Sachant que lors de ces examens, notamment lors de l'écho de datation, il faut savoir que il y a des médecins parfois qui peuvent faire écouter les battements cardiaques ou montrer l'image aussi sur l'échographe. Ces critères-ci, vous n'êtes pas obligé de les vivre. Si vous ne souhaitez pas avoir, si vous ne souhaitez pas entendre le battement cardiaque, si vous ne souhaitez pas voir l'image sur l'échographe, vous êtes en droit de dire non. Et le médecin doit respecter ce souhait-là. Voilà. Si ça peut vous aider lors de votre IVG.
Donc, comme on le sait que c'est des pratiques qui peuvent avoir lieu chez certains médecins, hein, même des médecins qui pratiquent l'IVG, donc qui a priori sont pas opposés. Vous avez le droit de le dire avant même que les choses soient faites. C'est-à-dire, je ne souhaite pas entendre ou voir une quelconque image de l'échographie.
Oui.
C'est important de le dire parce que c'est aussi un moyen de pression.
Oui, c'est un levier de persuasion de garder la grossesse contre son souhait. Donc,
exactement. Oui, oui. Donc ça, c'est, il faut quand même qu'on l'ait en tête.
C'est ça, exactement. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à l'IVG médical. Vous pouvez y avoir recours...
On peut dire médicamenteuse aussi.
Médicamenteuse, pardon. Excuse-moi, Françoise.
Non, mais c'est pas grave.
l'IVG médicamenteuse. Vous pouvez y avoir recours jusqu'à la 9e semaine de grossesse à l'hôpital. Par contre, il y a une subtilité si vous le faites donc, en cabinet médical, chez votre médecin généraliste par exemple, ou même chez votre sage-femme, vous avez seulement un délai de 7 semaines. Donc on garde en tête que si vous faites en contexte d'hôpital, c'est 9 semaines. Si c'est en cabinet à la ville ou à la campagne, peu importe, c'est 7 semaines. Donc c'est ce qu'on appelle l'IVG aussi qu'on fait chez soi. Ensuite, donc, il y a la deuxième catégorie, l'IVG. Donc,
qu'on appelle nous par aspiration.
Oui, mais qui correspond à l'IVG instrumental.
Voilà.
Donc celui-ci, il peut se faire dès la confirmation de grossesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. C'est vrai que c'est un peu la légende urbaine de dire que de telle semaine, enfin de 7 à 9 semaines, on fait l'IVG médical. Seulement après, vous pouvez prétendre à l'IVG chirurgical, c'est faux. Il faut savoir que c'est faux. Vraiment, l'IVG chirurgical, si vous souhaitez y avoir dès le départ, c'est tout à fait possible. L'important, c'est d'avoir le droit de choisir. Et ça, vraiment, on insiste là-dessus. L'IVG chirurgical, c'est en plus ce qui est moins douloureux, on verra ça après, mais vous pouvez y avoir le droit dès le départ. Et encore une fois, on n'a pas imposé la méthode d'avortement à la personne qui est concernée contre son souhait.
On n'a pas parlé de la situation de la mineure qui se retrouve à l'hôpital avec une IVG MED.
Donc, l'IVG médicamenteuse, comment ça se passe ? L'IVG médicamenteuse, il y a deux comprimés. On prend deux comprimés. Un premier comprimé qui stoppe la grossesse et un deuxième comprimé qui provoque les contractions de l'utérus et les saignements. Et donc, qui permettent l'expulsion de l'embryon. Donc, l'expulsion, dans 60% des cas, elle se fait au bout de 4 heures. Mais elle peut aller jusqu'à 72 heures. Ça dépend de chaque personne. Et donc, celle-ci, cette méthode, elle peut se faire à l'hôpital ou chez soi. Donc, ça fait comme dans les femmes qui ont avorté par IVG médicamenteuse expliquent que ça fait comme des grosses règles très intenses, des douleurs... Des contractions de l'utérus, des douleurs dans le bas du dos, dans le bas du ventre.
Qui sont assez fortes.
Ça dépend des personnes, mais qui peuvent être effectivement assez fortes et des saignements qui peuvent être aussi importants.
Peuvent être impressionnants.
Oui, et donc c'est bien aussi d'être accompagné. dans ces moments-là, d'être avec une personne de confiance, soit à l'hôpital, soit chez soi. Oui. Si on le fait chez soi, si on prend le premier médicament à l'hôpital et puis après le deuxième chez soi, voilà. Avoir toujours quelqu'un avec soi, c'est toujours mieux.
C'est bien de savoir ce qui va se passer. Comme ça, on peut choisir avant. Parce que l'IVG médicamenteuse paraît toujours plus facile à la plupart des femmes. Ah, on prend des cachets, bouf, tu parles. Une fois que tu as pris le deuxième, quelquefois, on ne s'amuse pas. Hein. C'est douloureux, c'est difficile et ça dure longtemps, longtemps, souvent. Pas toujours, mais souvent. Donc, il faut prévenir les femmes qui vont user de cette méthode. Il faut leur dire que ce qui peut se passer. Comme ça, elles peuvent choisir, elles peuvent savoir ce qu'elles préfèrent.
Exactement. Bon, c'est pas toujours le cas, ça dépend vraiment des personnes, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être...
Ça peut arriver.
Ça peut arriver que ce soit douloureux.
Et puis, on peut s'attendre aussi à avoir des saignements même plus importants que ce qu'on a d'habitude pendant
ces
règles.
Ah oui, c'est vrai, beaucoup plus.
Il y a des personnes qui, lors de leurs règles, ne perdent pas beaucoup de sang, mais c'est vrai que là, en cas d'IVG médicamenteuse, on peut perdre beaucoup plus de sang. Donc, c'est pour ça que ça peut être impressionnant pour les personnes qui ne sont pas habituées à un flux de sang conséquent.
Oui. Certaines femmes pensent qu'elles font une hémorragie, alors que ce n'est pas du tout une hémorragie, c'est normal.
Tout à fait. Ensuite, donc, on a la deuxième IVG donc instrumentale, donc, encore une fois, qu'on peut pratiquer dès le début de la... dès lors que la grossesse est confirmée. Donc, l'IVG instrumentale, elle est basée sur la méthode Karman. Donc, il faut savoir que lors de cette IVG, déjà, vous pouvez avoir recours soit à une anesthésie locale, soit une anesthésie générale, donc l'anesthésie générale, vous êtes entièrement endormi. L'anesthésie locale, elle a lieu surtout au niveau du col de l'utérus. Donc, et cette subtilité entre anesthésie locale ou générale, c'est selon, encore une fois, le choix de la personne concernée. Donc le but d'anesthésier au départ le col de l'utérus, c'est parce qu'on va venir progressivement dilater le col par application de médicaments. Puisque le but du jeu, en fait, le col de l'utérus, de façon naturelle, c'est un très, très petit trou. Et il faut qu'on puisse passer une
canule.
Sonde. Oui, voilà, une canule. Enfin, c'est une sonde d'aspiration pour ceux qui n'ont pas le jargon médical. Et donc, pour ce faire, il faut que le trou au niveau du col de l'utérus soit suffisamment ouvert, en l'occurrence, pour qu'on puisse insérer la canule. Sachant que la canule, il n'y a pas de diamètre type, elle est adaptée à chaque stade de la grossesse pour la personne qui souhaite avoir recours à l'IVG. Et donc, une fois que les médecins ont estimé que le col était suffisamment dilaté, donc ils vont insérer la canule en passant par les voies naturelles. Et ils vont venir aspirer le contenu utérin. Donc, ce qu'on attend par contenu utérin, c'est le placenta et l'embryon. Voilà. Et donc, il faut savoir que c'est une méthode qui est plus efficace que l'IVG médicale, qu'elle se fait dans la journée. Donc, c'est-à-dire que vous rentrez le matin, par exemple, et vous ressortez dans l'après-midi, si tout va bien, et que c'est très peu douloureux par rapport à l'IVG médicamenteuse.
Puis c'est net et propre,
il n'y a pas de résidus, non.
Oui, alors que quelquefois, avec l'IVG médicamenteuse, si c'est un peu tard, quelquefois, on est obligé de faire un curetage.
Tout à fait.
Alors que là, non.
Tout à fait.
C'est net. Quand on a fait ça, c'est net.
Exactement.
Bon, on espère pouvoir écouter vos témoignages, vos questions au 07 89 05 55 99, 07 89 05 55 99. Et donc, on va pouvoir écouter la deuxième chanson d'Anne Sylvestre. Non, tu n'as pas de nom. Et oui, Françoise, on peut l'écouter. Formidable. Merci Sonia.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège, ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis dans d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Tu n'as pas de nom. Dan Sylvestre. Merci d'écouter l'émission Pas de tabou entre nous, l'émission du planning familial de la Vienne, le premier mardi de chaque mois. Aujourd'hui, nous parlons avortement et il faut que l'on donne une petite précision qui peut être utile à certaines mineures. Si on est mineur et qu'on va faire l'IVG médicamenteuse à l'hôpital, au CHU, pardon, eh bien, je crois que le CHU de Poitiers ne laisse pas repartir les mineurs tant que l'IVG n'est pas terminée. Donc, si on est mineur et qu'on ne veut pas que nos parents le sachent, eh bien, il vaut mieux choisir la méthode par aspiration ou la méthode chirurgicale, comme ils disent, parce que ça, c'est fait, c'est infini, c'est propre, on rentre, rien, ça ne se voit pas. Tandis que l'IVG médicamenteuse, on peut saigner longtemps, comme l'a dit tout à l'heure Aurélie, ça peut durer longtemps. Et quand on rentre à la maison avec soi, c'est compliqué si les parents ne sont pas d'accord, si les parents ne sont pas dans l'empathie et ne nous accompagnent pas. Donc, on reste à l'hôpital et il faudra donner des explications. Pourquoi on est resté à l'hôpital? Donc, alors, ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose qu'il faut qu'on vous dise, c'est que normalement, la loi dit que les mineurs doivent avoir une attestation d'entretien. Cette attestation d'entretien, et on l'a fait, nous, au planning, elles viennent nous voir, on a un petit entretien avec elles, et à la suite de cet entretien, on leur délivre une attestation d'entretien. Oui, c'est...
Oui, moi j'ai une question sur l'attestation d'entretien. Je ne me souviens plus, est-ce que du coup ça fait partie de l'espèce de processus de la semaine de réflexion qu'il y avait avant aussi pour les adultes?
Ah oui, ça existait avant. Je ne sais pas si c'est ça ta question, mais autrefois, ça existait pour les adultes et ça a été aboli.
Et là, c'est toujours le cas pour les mineurs. Il y a toujours cette semaine de réflexion.
Ouais. Okay. Oui. Mmh. Oui.
Je ne sais pas si c'est une semaine de réflexion.
Non.
En tout cas, il faut un entretien avec une attestation
avec une conseillère conjugale.
Conseillère conjugale ou psychologue aussi au CHU.
Et donc au planning, nous les conseillères conjugales, on peut recevoir les mineurs et leur délivrer cette attestation.
Alors, ça... Nous avons un appel.
Allô, bonsoir. Bonsoir.
Allô, est-ce que vous nous entendez?
On vous écoute.
Bon, notre petit problème technique...
On n'a pas de chance.
Bon, Sonia, peut-être que tu peux prendre la question et puis nous la proposer, comme ça on pourra y répondre. En attendant, moi j'avais envie de vous faire une lecture d'un tout petit témoignage qui se trouve dans le livre « J'ai avorté, je vais bien, merci ». Aux éditions La Ville qui brûle, où c'est un livre de témoignages de femmes qui ont avorté avant 79, après 80, après 2000. Et voilà, comme c'est bien aussi d'avoir des retours directs de femmes qui ont vécu l'avortement. C'est un petit témoignage en attendant d'avoir la question de notre auditrice. Donc elle nous dit « J'ai avorté à 30 ans, je venais de quitter mon boulot et j'étais en couple depuis quelques années. C'était une évidence, je n'y ai pas réfléchi une seule seconde. Je ne voulais pas d'enfant, point. Et ça n'a rien à voir avec ma situation amoureuse, sociale ou financière. Ça n'a rien à voir qu'avec moi. Enceinte, je me sentais complètement dépossédée de moi-même. Alors ce qui a été dur, c'est l'attente entre le moment où j'ai constaté la grossesse et le moment où je me suis fait hospitaliser pour un avortement médicamenteux. L'avortement en lui-même a été un soulagement, même si, et contre toute attente, j'ai eu mal. Ceci dit, grâce à l'interne qui me suivait, j'ai enfin pu me poser le stérilet qui jusque-là m'avait été refusé au motif illégitime, donc, que je n'avais jamais eu d'enfant. Donc, j'ai avorté et je vais bien. C'est même l'une des décisions les plus sensées de ma vie. J'irais même jusqu'à dire que ça a été constructif parce que cette grossesse avortée m'a fait prendre conscience du fait que j'étais une femme, plus une jeune fille. Et oui, quand j'y repense, je me sens forte. Donc ce témoignage, il est vraiment très, très fort et donc il reprend un petit peu tout ce qu'on a pu dire tout au long de l'émission. Et ça nous permet aussi de rebondir sur le fait qu'au moment où on va aller avorter, peu importe l'endroit où on avorte et peu importe la méthode, il y aura une question qui nous sera posée, ça sera probablement un moment où on va vous demander quelle contraception vous souhaitez.
Ou quelle contraception vous avez.
Ou quelle contraception vous avez. Et peut-être que cette contraception n'est pas celle qui est adaptée à votre mode de vie, à votre manière... elle a peut-être été adaptée à un moment, elle ne l'est plus maintenant, parce que tout au long de la vie, on a le droit de changer de mode de contraception, et puis ce qui nous convenait à un moment ne nous convient plus plus tard. Oui. Donc il y a plein de méthodes de contraception qui existent, et donc peut-être réfléchir à ça, ça peut être...
Oui, parce que peut-être je peux ne pas en avoir.
Je peux ne
parce
pas en avoir.
Parce que j'en ai marre d'avaler des hormones, nous disent beaucoup de femmes, oui.
Oui, du coup, je retente, c'est des témoignages, du coup, sur des questions d'avortement, d'accompagnement dans un avortement.
Merci. Allô, bonsoir.
Bon. Et non, malheureusement.
On ne vous entend
Kader,
pas.
Kader.
Alors, moi, c'est Françoise qui essaye d'appeler le technicien, mais donc, il ne viendra pas. Bon, donc voilà, ça peut être effectivement un moment pour réfléchir aussi à changer de contraception ou à en prendre une si on n'en a pas.
Oui. Ouais, et puis ce que je trouve bien dans ce témoignage-là, c'est qu'on n'est pas du tout dans un pathos de la personne subit vraiment la situation, elle est extrêmement dépressive, hein, comme un peu les idées ou un préconçu ou stéréotype qu'on peut avoir, et qu'elle est tout à fait alignée sur son choix, que la question ne s'est même pas posée et que voilà, c'est clairement pas subi, quoi. Et on n'est pas, voilà, encore une fois, on n'est pas dans ces images véhiculées de c'est un choix contre cœur, ça va contre... ce qu'on peut penser du rôle de la femme, d'enfanter, etc.
Sonia.
Allô, est-ce que
oui,
ça marche?
Ça marche, merci, oui. Bonsoir.
Ça fonctionne. Oui. Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai écouté votre émission et en fait, ça m'a fait penser à deux anecdotes, deux témoignages, quoi. La première, c'est que j'ai accompagné une copine, en fait, pour bénéficier d'un avortement par médicament au CHU de Poitiers.
Oui.
Et en fait, au CHU, la dame, elle avait proposé, il y avait une petite salle, en fait, où, en gros, elle pouvait prendre le premier médicament chez elle, qui stoppe le développement de la grossesse.
Mm-hmm.
Et le deuxième médicament pour l'expulsion de l'œuf, en fait, elle le prenait à l'hôpital et on a attendu ensemble dans une salle, en fait, à l'hôpital. C'était une chambre dans laquelle il y a aussi une salle de bain et des WC.
Mmh.
Et en fait, on était deux copines, elle l'accompagnait, elle, et il y avait une infirmière qui est formée aussi, qu'elle avait expliqué être passée par le planning familial de la Vienne, qui avait fait une formation chez vous, et qui venait voir comment ça se passe, qui pouvait aussi vérifier quand il y a les expulsions. En fait, ma copine, elle le faisait dans un bassin, et du coup, l'infirmière, elle pouvait vérifier si tout s'était bien passé. Et que l'œuf était bien expulsé. Et ça, moi, je sais que ma copine, ça la stressait beaucoup que ça fonctionne pas.
Mmh.
Du coup, elle avait pu être rassurée. Et du coup, c'était un bon entre-deux, entre... elle voulait vite que ça se termine et il n'y avait pas de place pour l'aspiration. Enfin, il fallait attendre plus longtemps. Du coup, elle pouvait... La méthode intermédiaire, c'était médicaments, mais à l'hôpital. Et c'est ce qui lui a convenu le mieux, quoi. Et elle, elle n'a pas eu trop de douleurs.
Oui, c'est vraiment...
Enfin, je pense que ça dépend vraiment de toutes les femmes, mais...
Tant mieux pour
elle. Juste, elle saignait, et à un moment, elle a fait... Oh, elle a senti que c'était un peu différent que les saignements d'avant. Et puis, voilà. Donc, c'était pour dire que ça s'était très bien passé, et qu'à l'hôpital, vraiment, le personnel avait été chouette avec elle, et que nous, on était deux copines à être là, et...
C'est bien d'accompagner.
C'est un moment important, quoi. Ouais.
Non, mais c'est super l'autre... que ça se soit bien passé, ce témoignage. Merci beaucoup.
Et l'autre témoignage que j'avais en tête, et que peut-être vous pouvez un peu dire là-dessus des choses, je ne sais pas, mais il y a aussi une autre amie qui a bénéficié d'un avortement, mais il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'était un centre de planification à l'époque, qu'elle continue d'appeler planning familial à La Rochelle.
Mmh.
Mais du coup, j'ai l'impression que c'est pas à vous. Mais en fait, elle y est allée, elle avait accouché quelques mois avant et elle est retombée enceinte.
Oui.
Et en fait, on lui a fait la morale au planning familial, enfin au centre de planification, je sais pas trop.
Mm.
Et on lui a... Mais vraiment, elle est trop mal. Et quand elle en parle, elle a ça en tête, quoi. Alors, elle a réussi à bénéficier de l'avortement. Mais on lui a dit qu'elle devrait réfléchir. On l'a fait repartir chez elle sans bénéficier de l'avortement pour qu'elle réfléchisse et tout ça. Et je voulais savoir si vous connaissez, si ça existe encore ça ou... C'est vraiment passé.
C'était pas au planning familial. Nous,
non,
on ne fait jamais la morale aux femmes, au contraire.
C'est ce que disait l'auditrice, c'est qu'en fait, il y a une confusion. Il y avait une confusion entre le centre de planification et le planning familial. Encore aujourd'hui, nous, on nous appelle en pensant appeler le centre de planification, qui est maintenant le centre de santé sexuelle. Donc, la culpabilisation, elle existe encore aujourd'hui. Il y a une étude qui est sortie en 2024 du planning familial et qui, c'est quand même toujours quelque chose dans les freins pour l'accès à l'avortement pour les femmes. C'est-à-dire la culpabilisation, même s'il y a quand même, il faut quand même qu'on soit clair, il y a des avancées sur les questions d'IVG et de... démocratisation de l'idée de l'accès à l'IVG.
Les jeunes le prennent mieux, je trouve.
Oui, je pense qu'il y a des différences, mais oui, ça existe encore. Et c'est ce pourquoi on lutte aussi et qu'aujourd'hui on fait cette émission sur l'avortement, parce que il ne faudrait pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Je pense que c'est le contexte actuel nous fait dire, et on le voit dans différents pays d'Europe ou dans le monde, que les droits des femmes, c'est jamais acquis, et ce sont souvent les droits des minorités qui sont les premiers attaqués quand on a des gouvernements qui sont antidémocratiques. Donc, c'est important de dire à toutes les femmes que l'avortement est anonyme, gratuit, que c'est un droit et que c'est un droit dont on doit user librement, sans culpabilité ou culpabilisation, et que ce choix ne regarde que nous. Et que les méthodes qui sont proposées, on a le choix... IVG médicamenteuse ou IVG par aspiration, et que personne n'a le droit de nous imposer quoi que ce soit. Tout comme la contraception. Oui. C'est notre choix. C'est notre...
Sonia, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, que j'ai l'impression que dans une histoire comme ça, c'est aussi la répétition qui fait qu'on peut juger, ou enfin qu'il y a ces éléments de culpabilisation. On est parfois surprise de voir des femmes sans contraception. Ça, c'est aussi un enjeu de culpabilité, de devoir assumer qu'il n'y avait pas de contraception. Et que,
voilà. Mais il y a quand même... T'as raison, Sonia, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la majorité des femmes qui avortent avaient un moyen de contraception. C'est des statistiques, fait, ouais. C'est très clair, c'est que il était peut-être pas adapté, il a peut-être pas fonctionné à ce moment-là, mais sur une période de fertilité de 15 à 50 ans, qui n'a pas eu une
c'est
erreur
c'est vachement de... bien d'avoir toujours fait ce qu'il faut.
Oui, voilà, qui n'a pas eu un oubli ou quelque chose, peu importe, on a été malade, enfin bon, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut être enceinte malgré le fait d'avoir une contraception. Et voilà, c'est nous dire... oui, merci beaucoup pour cet appel et pour cette question. Et ce qu'il ne faut pas, voilà, l'idée d'infantiliser les femmes qui seraient des bécasses et qui ne seraient pas capables de s'occuper de leur contraception. Mais laissons donc, si les hommes avaient des moyens de contraception, peut-être qu'on ne serait pas les seuls à porter cette question et ce serait aussi partagé.
C'est pas sûr.
Ben, merci à vous. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci Sonia. Il nous reste 5 minutes. On a
Moi, j'ai quelque chose à dire.
On a encore des petites choses à vous dire, notamment si on est.
Les délais
sont dépassés.
Tout à fait. Oui.
Si on a dépassé les 14 semaines de grossesse.
C'est ça. Donc, les 14 semaines de grossesse, comme on l'avait dit, ou les 16 semaines sans règles. Donc, si jamais vous vous rendez compte que lors de l'écho de datation, vous n'êtes plus dans ce délai imparti en France, il est possible, si vous le pouvez, d'avorter ailleurs en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des pays européens qui ont des délais plus longs que nous, ce qu'on peut proposer en France. Donc, par exemple, en Espagne et aux Pays-Bas, le délai court jusqu'à 22 semaines de grossesse. Et en Angleterre, ils vont pousser même jusqu'à 24 semaines de grossesse. Donc, si vraiment vous êtes... au-delà des 14 semaines de grossesse ou 16 sans règles, vous pouvez aller en Espagne ou aux Pays-Bas ou en Angleterre pour avoir recours à un IVG hors délai en France.
Vous pouvez venir nous voir, on vous expliquera on vous expliquera les démarches, on discutera avec vous de comment ça se passe, puisque nous, on a des témoignages de femmes qui sont allées et qui nous racontent comment ça s'est passé.
Donc c'est le rendez-vous, c'est au 20 rue du Fief des Hausses, le lundi de 18h à 20h, sans rendez-vous à Poitiers.
Voilà, et justement, moi je voudrais faire un petit retour sur le passé et dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Mais avant que la loi soit votée, les femmes avortaient avec des de manière, comment on appelle ça, je trouve plus
méthode
le mot.
Carmen.
Hein?
C'est la méthode Carmen, tu veux dire ?
Oui, non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que l'avortement était totalement illégal et les femmes rencontraient des femmes qui les aidaient en introduisant une canule ou un objet dans leur utérus. Et le fait que cet objet soit introduit arrêtait la grossesse et provoquait une hémorragie. Alors, ces hémorragies, quelquefois, se passaient bien, ça éliminait la grossesse, mais quelquefois, elles se passaient très mal parce que ça installait un microbe et c'est une bactérie qui faisait que les femmes ont développé des maladies très graves et pouvaient même mourir. En 1973, environ 2 ans avant la loi sur l'IVG, un Américain qui s'appelait Carman a installé une méthode que les Américains utilisaient très, très, très couramment avec des canules en plastique, des canules et des seringues. C'était du matériel qui n'était pas du tout douloureux, alors qu'avant, le curetage, ça faisait très mal. Donc, cette méthode consistait à aspirer le contenu de l'utérus pour enlever tout ce qu'il y avait dedans. Et la méthode Carman a été développée en France avant la loi. C'est-à-dire qu'avant la loi, les femmes avortaient avec la méthode Carman, comme disait le ministre, sur la table de la cuisine ou ailleurs. Et les femmes se sont appropriées cette méthode, en ont fait la leur et ont décidé de s'avorter elles-mêmes.
Il y a un très beau film là-dessus, Annie Colère, qui retrace le parcours.
Et donc,
des femmes.
Avec l'aide d'étudiants en médecine, bien sûr, ou d'autres personnes qui sont allées se former en Angleterre ou aux États-Unis, les avortements avaient lieu avec la méthode Carman. Et je crois que le gouvernement s'est rendu compte qu'ils étaient ridicules, puisque la loi n'autorisait pas l'avortement, mais on les faisait quand même. Donc, ils ont décidé de faire voter une loi.
Aujourd'hui encore, le planning familial se mobilisent pour l'accès à l'avortement. Et donc, je vais vous donner quelques recommandations du planning familial en tant que mouvement national pour améliorer l'accès à l'IVG. Donc, nous, on souhaite que les délais légaux d'avortement soient prolongés, que les démarches pour avorter soient simplifiées, qu'on améliore l'accès à l'IVG sur l'ensemble du territoire, qu'il y ait de plus de campagnes d'information concernant l'IVG, qu'il y ait de plus de personnes formées autour de la question de l'IVG. On souhaite aussi qu'il y ait un congé de santé sexuelle et reproductive qui soit instauré sur les menstruations douloureuses, sur les fausses couches, l'IVG, la ménopause, et puis garantir un accès gratuit à l'avortement pour toutes et tous sur le territoire français, et supprimer aussi la double clause de conscience. Donc tout ça part de toutes ces femmes qui ont lutté, comme tu le disais Françoise, pour que l'avortement soit légal en France.
Et alors j'oserais dire que quelquefois au planning, nous avons pensé, au planning avec d'autres femmes, que pourquoi nous on ne se réapproprierait pas l'avortement ? Pourquoi nous-mêmes nous pourrions pas faire comme les femmes en 73 qui faisaient elles-mêmes, qui s'avortaient elles-mêmes ?
Sur ces grandes réflexions, et oui, on se pose souvent la question, on va mettre fin à cette émission.
Merci beaucoup. Et oui, à la prochaine. Voilà, une autre émission. Merci beaucoup. Prochaine émission au mois de juin. Et merci pour votre écoute. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Plaisir, baise, consentement,
caresse,
violence,
tabou,
vulve,
désir,
sein,
pénètre,
ménopause,
homosexualité,
queer,
cul,
emprise,
viol,
avortement,
transidentité,
masturbation,
endométriose,
homosexualité,
orgasme,
pénétration,
tabou.
Pas de tabou entre nous. Nos voix sont libres, nos corps aussi. Parlons plaisir, lutte, amour et féminisme. Tous les premiers mardis du mois de 20h à 21h sur Radio Écho des Choucas.